Bah, petite, je m'en rappelle pas, mais alors, mon père, je l'ai rencontré à 25 ou 26 ans, je crois.
Je l'ai espéré pendant 13 ans, sûr. Puisque pendant 13 ans, j'ai gardé une chambre vide. Donc j'espérais bien que quelque chose se passe.
Il y a un homme avec un manteau bleu, une casquette, un camouflage militaire. Il fume une cigarette. Il a une longue queue de cheval et des lunettes. Je pense que c'est lui. Est-ce que vous êtes Christian?
Vous allez m'interviewer.
Je vois que mon micro vous embarrasse un peu. Vous êtes devenu un personnage de cette enquête.
Aïe, aïe, aïe.
Sans le vouloir.
Moi, bien oui. Moi qui voulais vivre, enfin qui voulais vivre, qui espérais faire un passage un peu seul sur la terre comme ça.
En effet, vous êtes isolé, vous ne voyez pas beaucoup de monde.
Ben, non, enfin, j'en vois plus.
Dimitri, deux fois disparu, une enquête documentaire de Mathieu Cornelis. Épisode 6, Christian.
J'étais à Dijon et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai écrit à perdu de vue. Le courrier, je l'ai, il est au garde-meuble. Et je me suis dit, oh, c'est chouette comme émission, on va essayer. Et du coup, ils m'ont répondu, non, il faut aller faire des recherches dans l'intérêt des familles. Et du coup, j'ai pris le bottin, j'ai téléphoné à tous les billets qu'il y avait un peu dans le nord, garçons et filles, enfin bref. Et je suis tombée sur une Mireille Billet, et qui m'a dit oui, je suis la sœur à Christian Billet, mon père s'appelle Christian Billet. Et je lui ai demandé le numéro de téléphone de mon père, je lui ai expliqué qui j'étais, nanana. Et elle m'a dit, bah, je ne peux pas vous le donner, par contre, je vais lui dire que vous avez appelé. Et ben, s'il veut, il vous rappellera. Et il m'a rappelé peut-être une semaine après, par téléphone. Voilà, on a discuté, nanana. Donc, c'est comme si je lui pose des questions. Pour lui, à son époque, on ne posait pas de questions. Donc, moi, je n'ai pas posé de questions. C'est sa vie et ça ne me regarde pas. Donc, puis, il a des préjugés. Il est resté encore dans les années 70. Voilà. Il voulait que je l'appelle papa, et machin, et voilà, il voulait plein de choses, alors que pour moi, quand je l'ai rencontré, que je discutais avec lui, c'est un pote. Mmh. C'est pas un père.
Et tu ne l'avais pas vu depuis quand?
Bah, depuis que j'étais bébé. Moi, il m'a jamais dit la vérité, je pense. Et il cachait des choses. J'ai un tonton du côté de mon père, il s'appelle Michel. Il me disait, ouais, mais ton père, il veut pas que je te parle de ça, mais il veut pas que je te parle de ça. Il y a des choses que je sais, par exemple, quand ma mère et mon père, ils se sont connus, quand ses parents sont décédés, ils ont habité ensemble, ils n'avaient pas de sous, du coup, ils avaient dénudé l'électricité du voisin pour pouvoir se brancher et tout. Il faut pas me le dire, alors que moi, ça me fait sourire, j'en rigole. Moi, en tant que jeune, j'aurais peut-être été capable de le faire aussi, c'est marrant. Mais voilà, c'est des détails comme ça qu'il veut pas dire, pourquoi, je sais pas.
Souvenez-vous, dans un épisode précédent, j'avais rencontré Luc Sommers, le directeur d'une association qui est en quelque sorte la continuité du travail du Haut Mampin à Bruxelles. Luc Sommers m'a dit qu'il pouvait peut-être retrouver le contact de Madame Moureau, qui était directrice du Haut Mampin fin des années 70, et il y est parvenu. Et Madame Moureau habite ici? Voilà, je vais entrer dans sa propriété et par l'allée qui serpente dans l'avant-jardin. Je marche jusqu'à la villa blanche au volet bleu. Voilà, il y a une petite dizaine de marches et je vais sonner à la porte. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci de me recevoir.
Il n'y a pas de quoi.
Vous vous rappelez de quoi, de Dimitri ?
Les souvenirs que j'ai, je vous dis, c'est ce petit garçon dans les bras de Marie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je me souviens l'avoir vu une fois ou l'autre, pas beaucoup, mais je crois que bien une fois ou deux. Marie, revenant à Bruxelles, venait nous dire bonjour avec lui. Je la revois avec le petit dans ses bras. Donc, effectivement, moi, j'ai le souvenir vraiment d'une maman avec, ce lien-là, quoi, d'une maman avec un jeune enfant où ça se passait bien et où il était en sécurité. Et pour moi, c'était un enfant, entre guillemets, sauvé, quoi.
Qu'est-ce qui explique que Samuel et Catherine arrivent un jour au home en pain ?
Bien, un jour, il y a eu une facture d'électricité qu'on n'a pas payée. L'électrique est venue couper. Et l'électrique a déclaré à la commune qu'il y avait deux enfants qui étaient dans un appartement coupé sans lumière. Et puis alors, un jour, une assente sociale est arrivée. Elle a dit, bon, ben, le temps que vous retrouvez un travail, si je vous fais une proposition, je vous propose de placer des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je regarde Martine. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelque part, c'est une aide. Hein. On dit tous les deux, bon, ben, ok. Mais qu'on peut les récupérer dès qu'il y aura de l'électrique, qu'on aura retrouvé du travail, ça va. Personnellement, je connais l'expérience de l'orphelinat, puisque je viens de là. C'est une belle protection. Je suis d'accord. Je suis allé en orphelinat pendant 2 ans. J'étais plus heureux en orphelinat qu'à la maison. Quand vous les comparez aux baffes que la mère nous balance, c'est... L'orphelinat, c'est ma deuxième famille, de toute façon, à vie. Ben, ce sont des gens... Il y a l'oncle Dimitri qui a lu Djoublou. Il y a tante Catherine de l'eau vive, la maison à Lille. Il y a Samuel de la Maison Blanche, qui était mon grand frère de 3 ans, grand frère de cœur.
Et donc vous avez nommé vos enfants de leur nom ?
Oui, leur prénom. Quand je suis rentré, j'ai dit quand même arriverai, j'aurai un garçon. Et là, j'appellerai Samuel. Pour Catherine, tante Catherine. Hein. Et Dimitri, tonton Dimitri.
C'est douloureux de se séparer de ses enfants, même si c'est momentané.
On pleure à l'intérieur. On ne montre pas.
Vous avez récupéré l'électricité, vous avez récupéré vos enfants alors ?
Sur cet intervalle, il y a eu une autre décision plus grave qui a été prise, c'est-à-dire celle de la rupture du couple.
Quelques mois après la naissance de Dimitri, en 1976, Christian et Martine se séparent. Elle dépose Dimitri au home en pain. Ce soir-là, ma mère est de garde. Martine lui aurait dit, lui non plus, je ne peux pas m'en occuper. Il rejoint donc Samuel et Catherine. Lui est en pouponnière, eux dans une autre section. Sachant que Dimitri avait un frère, une sœur, oui. Au Mampin, et qu'il est séparé de son frère et de sa sœur, ça reste une bonne idée pour Marie et Guy de l'accueillir.
Ça a dû être permis, parce que justement, en fait, ils n'avaient pas vécu ensemble. Les deux grands, oui, mais le petit est arrivé, il ne les connaissait pas. Les deux grands ont sans doute été le voir à la pouponnière, etc. Donc je suppose que c'est pour ça aussi que le juge Blondel a permis ce placement de lui seul dans une famille. C'est parce qu'il n'y avait finalement sans doute pas de lien très étroit entre Dimitri et ses aînés.
Alors après, Martine, elle a trouvé un travail de serveuse Et puis elle a rencontré Alain. Et puis ils ont décidé de partir. Et quand j'ai à Martine les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, t'occupes, je m'en occuperai. Ouais, mais comment tu vas faire? T'as pas de travail, l'autre y a pas de travail. Mais bon, c'est pas une référence pour des enfants, quoi.
Pourquoi? Allez-y.
Parce que c'est un cambrioleur. Parce que c'est un alcoolique. Parce que c'est un fainéant. Parce qu'il tape les femmes. Ce que je me rappelle, c'est que une fois que je terminais ma semaine de travail, le vendredi soir, on avait l'habitude d'aller boire un verre, fin de semaine. Mon frère Norbert arrive avec Alain dans le café. Puis il me dit, il y a Alain, il voudrait demander quelque chose, que tu signes un certificat de pour que les enfants puissent sortir, passer la frontière. Les enfants, ils restent en Belgique, ils passent aucune frontière. J'ai dit non, pas question. Oh, il va dire à Alain. Norbert revient. Bon alors, tu veux pas le signer, ce papier? Pour passer la frontière, il voudrait aller en Espagne. Et alors là, il n'est pas question, je signe strictement rien du tout. Donc il est parti. Et alors, c'est beaucoup plus tard que j'ai appris que les enfants avaient été kidnappés du homme en pain. C'était après son hold-up. Du coup, c'est lui qui a signé le papier de sortie de territoire. Et au homme en pain, il s'est peut-être même fait passer pour le père des enfants.
Vous en avez voulu à Martine d'être parti?
Oui et non. Il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Elle n'est pas seule dans la famille. Je suis là aussi. Emmener ses propres enfants dans de telles galères, c'est honteux, quoi. Bon, c'est triste qu'il cambriole une banque pour 330 000 euros. Ça leur a permis de louer une villa avec piscine en Espagne. Mais je me suis dit, au moins, les enfants, ils sont bien. Une villa, une piscine, je peux pas leur donner ça. À côté d'Alain, je suis un zéro. Là, il est fort. Il est fort.
C'est ce qui a plu à Martine?
Et c'est ce qui plaisait à Martine, ben oui.
Le 20 décembre 1982. Monsieur et Madame Cornelis, suite aux renseignements que vous m'avez transmis, j'ai fait revoir la situation de Dimitri. Celle-ci s'avère très satisfaisante. Ma déléguée, Madame Torekens, a étudié la situation de manière approfondie. Nous continuons à surveiller l'évolution de cet enfant. Guy Blondel, juge de la jeunesse.
Je ne parviens toujours pas à croire qu'une enquête sociale ait été réalisée. En 1982, Christian me le confirme, Dimitri était en cavale avec Alain, sa mère, Catherine et Samuel. La situation familiale pouvait-elle être satisfaisante? Et ce dossier, disparu des rayonnages d'archives au tribunal de première instance francophone de Bruxelles? Je trouve ça louche. Vous avez revu Dimitri un jour? Là, vous me disiez que vous ne l'avez vu qu'après sa naissance et puis plus du tout.
J'ai vu Dimitri à sa naissance, une fois. Puis je l'ai revu en 97 chez Catherine. Catherine a une photo de moi et sa mère en mariée sur le mur. Elle lui a dit, ben regarde la photo. Il a regardé la photo, il m'a regardé. Et c'est là quand Catherine lui a dit, voilà c'est ton père. Dimitri s'est approché de moi. Et il m'a frotté les flancs, les deux flancs, comme ça. Il n'a pas parlé. C'est un geste qui... Ça veut tout dire, quoi. C'était peut-être même mieux. Le geste suffit. Quand j'étais chez Catherine, je lui ai donné mon adresse. Un soir, j'entends sonner trois fois, je lui ai dit, c'est le code de la famille et des amis. Et tout de suite, mon frein est tombé. C'est Dimitri. Première chose que j'ai fait, je lui ai fait couler un bain. changer de vêtements. J'ai donné une paire de chaussures, des bonnes chaussures de marche. Alors du coup, il dormait avec, quoi. Hein, c'est marrant. Et voilà, tout requinqué, tout habillé, hop, il sort de la baignoire, de la salle de bain. Et puis on a mangé, quoi. On a mangé, on a passé la soirée dans la salle à manger à pas trop savoir quoi parler. Alors on n'a pas beaucoup échangé.
Il avait besoin de quelque chose, besoin de dormir au chaud, besoin d'un bain, besoin de manger.
Peut-être qu'il a d'abord eu besoin de voir. De voir un père. Plutôt que de manger. De boire un verre de vin. Que de dormir.
Parlez-moi un peu de son état. Il était dans quel état ?
Quand j'ai ouvert la porte, j'ai bien vu que c'est un garçon qui a fait du chemin. Il a dû passer certainement une nuit, deux nuits dehors, à dormir je ne sais où. Je dis, ce garçon, il est loin, il est loin, il est loin. Il est loin, il est cassé. Et à l'âge qu'il a, comment rattraper ça ? La rue, la drogue, le manque de soins, vestimentairement parlant, très aléatoire. Le lendemain, au milieu du repas, il a fait un bond pas possible, et puis il est parti, sans rien dire. Puis il est revenu le lendemain. Toujours sans rien dire. Et ce jour-là, il m'a dit qu'il était parti voir sa famille, un troupeau d'escargots, qu'il avait laissé sur le bord de l'autoroute.
Il avait de la conversation ?
Il ronchonnait, marmonnait plutôt. Des fois, il se parlait tout seul. J'ai l'impression que quand Dimitri ouvrait la bouche, c'était pour dire quelque chose de fort et surtout pour sortir une colère. C'est l'impression qu'il m'a donnée. Il préférait évacuer sans doute son vécu.
Allô, Mathieu.
Cette voix, c'est celle de Samuel, le grand frère de Dimitri. Catherine m'avait prévenu, ce sera difficile d'approcher son grand frère. Il ne parle pas facilement de son enfance, encore moins pour la radio. Sa maman, Martine, est parvenue à le convaincre. Il est prêt à me recevoir, mais il vit en Corse.
Mon objectif, c'est de te rencontrer. J'en ai parlé avec mes producteurs hier qui m'ont dit « Bah oui, c'est vrai que c'est la Corse, mais il faut y aller, quoi ». À mon avis, je vais rester 48 heures en Corse.
T'occupes pas de l'hébergement, j'ai deux chambres. C'est quand que tu veux venir ?
Je voudrais venir avant la fin du mois de juin.
Ok, tu viendrais par avion, quoi, c'est plus simple pour toi.
Ouais. Tu es où, en fait, je connais pas la Corse, moi.
Solenzara, c'est à 40 minutes au nord de Porto Vecchio.
Dimitri, deux fois disparu. Réalisation et prise de son, Mathieu Cornelis. Montage, Irvic Dolivier. Mixage, Roxane Brunet. Musique, Jean-François Durdu, Sébastien Schmitz. une production Otuscops soutenue par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par l'atelier de création sonore radiophonique.